Philippe, métaphysique à Fribourg, le 1er mars 83, 3e cours.
Oh bon, ça va.
Bon, nous allons continuer. Y a-t-il des questions par rapport à ce matin ? S'il n'y en a pas, nous allons continuer d'essayer de voir très rapidement, parce qu'il ne faut pas tarder trop, cette question, un tout petit peu de voir comment historiquement s'est posé le problème de la personne. Je vous disais donc que chez Socrate, le problème de la personne se posait de cette manière qu'on peut dire que Socrate va intérioriser ce problème de la loi qui commence philosophiquement avec Héraclite. Héraclite, c'est le philosophe du logos, hein, et c'est le philosophe de la loi. C'est intéressant à noter parce que c'est quand même un des aspects très importants. Mais c'est pas du tout Parménide. Parménide, c'est le problème de l'être, tandis qu'on peut dire qu'avec Héraclite, ce n'est qu'un étudiant. Oui, ce n'est qu'un étudiant. On est dans... Les assistants regardent ça. Tandis qu'avec Socrate, le problème de la loi va s'intérioriser avec ce daimon intérieur. Et là, on peut dire qu'il y a là, dans ce daimon intérieur et dans ce souci, si vous voulez, d'être fidèle à la conscience et à ce daimon intérieur, on peut dire que déjà le problème de la personne est présent. Ça me semble très difficile de regarder Socrate sans voir qu'il y a déjà comme une sorte de réalisation au plan philosophique de ce qu'est la personne humaine. Regardez les dialogues de l'apologie de Socrate chez Platon, on voit bien comment Platon veut nous faire comprendre qu'un Socrate a eu un sens très profond, non seulement de l'immortalité de l'âme, mais un sens très profond de la destinée, et de la destinée religieuse de l'homme. De savoir que l'homme, de fait, était capable d'orienter sa vie selon les exigences intérieures de ce daimon. Chez Aristote, le mot « personne » n'existe pas, non plus. Mais il y a la philia, et il y a la contemplation. Si la contemplation chez Platon implique comme une espèce de rapt, très difficile à bien préciser par rapport au bien et par rapport à l'un, le problème de Eros chez Platon, chez Aristote, je dirais qu'on est devant un problème beaucoup plus d'une personnification par la philia et par la contemplation. Philia et théoria montrent chez Aristote un problème personnel. Il suffirait de regarder le testament d'Aristote. Le testament d'Aristote est très intéressant puisqu'il lègue ses biens, vous savez bien, du moins, il dit son affection et son amour pour sa première épouse, ce qui est très très curieux, c'est, je crois, la première fois on voit ça, parce qu'on ne verrait pas ça chez Platon. Le testament de Platon par rapport à son épouse, c'est peut-être quelque chose d'assez particulier. Tandis que le testament d'Aristote par rapport à son épouse est réel. Il reconnaît qu'il l'aime, et par rapport à celle qui est vivante et qui vivra après lui, bon, on sent très bien qu'il y a des liens d'amitié. Et je crois que ces liens d'amitié permettraient de concevoir ce qu'est en premier lieu la personne humaine, avec le point de vue de la théorie, encore une fois. Le mot « personne » ne va apparaître pour la première fois chez les stoïciens. les stoïciens sont les philosophes où le mot personne va apparaître avec la proairesis. C'est du reste très intéressant de voir ça. La proairesis, c'est-à-dire le choix personnel, définit la personne, à tel point que dans l'édition de Budet, chaque fois qu'on a proairesis, on met personne, ce qui n'est pas tout à fait juste. On va mettre le choix, l'élection. Mais c'est très vrai que le choix et l'élection définissent la personne. Nous nous définissons nous-mêmes dans notre choix et dans notre élection. Vous voyez ? Et alors, c'est assez beau de voir que le premier moment où le mot personne intervient comme mot dans la philosophie, chez les stoïciens, c'est autour de la proairesis. La proairesis, c'est donc le choix, l'élection. Vous retrouverez le mot personne chez les néoplatoniciens. Chez Plotin, la personne humaine est saisie dans une pure intériorité, l'intériorité contemplative de l'âme qui redécouvre sa parenté avec le nous et plus profondément avec l'un, au-delà de la contemplation. Autrement dit, l'intériorité chez Plotin, c'est l'unité avec l'un. C'est ce contact avec l'un, au-delà de la contemplation, qui nous fait dire l'absolu de ce que c'est que l'âme spirituelle. Alors on peut dire que là encore, vous voyez, que la personne en tant qu'individu, je dis bien la personne en tant qu'individu, n'est pas vue chez Plotin. Mais la personne en tant qu'esprit est vue. Il y a une dualité chez Plotin entre l'individu et la personne. Et ça, c'est très juste avec Plotin de distinguer le point de vue de l'individu et le point de vue de la personne. Et au fond, seule la personne a une véritable finalité. C'est d'être unie à l'un. Tandis que l'individu, c'est celui qui assume un corps qui est lié au cosmos et qui doit périr. La corruptibilité du côté de l'individu, tandis que la personne est éternelle. Je dis ça, c'est parce que la distinction que nous verrons avec Maritain entre individu et personne, je crois, est une distinction qui serait très intéressante à voir chez Plotin. Parce qu'elle nous aide à comprendre ce que c'est que Plotin. Alors, regardons maintenant, très rapidement, vous voyez donc que dans la philosophie grecque, on pourrait dire ceci, pour résumer, hein, que le mot « personne » apparaît tardivement chez les stoïciens, que la réalité profonde de la personne est présente, il y a une place encore là-bas, on va faire un petit mouvement. Bon, le mot « personne » apparaît donc chez Socrate, et chez Aristote, on ne peut pas nier, avec le problème de la philia et le problème de la contemplation. Mais le mot, encore une fois, est après. Alors ça, il faut le savoir, hein, parce que les historiens discuteront ça indéfiniment sur la question du mot, vous savez bien. Tant que le mot n'est pas là, la réalité n'y est pas. Saint Thomas dit, je vais essayer de retrouver le texte tout à l'heure avec vous, Saint Thomas nous dit que ce n'est pas une question de mots, c'est une question de réalité. Et la philosophie est toujours au niveau des réalités. Le mystère des personnes divines, considérées par les théologiens, ont fait que le développement de la théologie de la personne a pris une très grande importance. Alors ça, on peut bien dire que le mot « personne » prend chez les théologiens une très grande importance. Saint Augustin. La théologie de la personne demeure complexe. En effet, si « persona » est chez lui un terme absolu, non un terme relatif, le Père et le Fils et le Saint-Esprit n'en sont pas moins des relatifs purs, excluant, semble-t-il, toute subsistance. Alors ça, c'est dans le De Trinitate, très difficile à bien saisir. De même, il est assez difficile de distinguer chez saint Augustin le rôle de la personne et celui de la nature dans l'acte de procession. Dans son approche du mystère de la très sainte Trinité, par le point de vue de l'image de Dieu, saint Augustin définit la personne humaine comme une substance rationnelle consistant d'âme et de corps, l'âme elle-même possédant en elle-même trois éléments, mens, notitia, amor, ou encore memoria, intelligentsia et voluntas. Donc, autrement dit, saint Augustin ne cherche pas à préciser exactement ce que c'est que la personne. Ça reste quelque chose d'assez fou. Je crois que le premier qui a vraiment précisé ce que c'est qu'une personne, c'est Boèce. L'apport de Boèce est très important et beaucoup plus important que celui de saint Augustin. Par rapport à la personne, faisons attention. Après avoir, dans ses commentaires de Porphyre, où il n'emploie guère le terme de persona, présenter la forme de l'individu comme constituée d'accidents, comme une réalité d'ordre accidentel. Boèce, dans ses commentaires d'Aristote, présente l'individu comme une réalité substantielle. Et dans son dernier ouvrage, le De Consolatione Philosophiae, écrit en prison, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas ? Quand on est en prison, on a du temps pour écrire la consolation du philosophe. Alors, De Consolatione Philosophiae, qui est encore un ouvrage philosophique, il montre comment l'homme est semblable à Dieu par la mince et appelé à une vocation divine par la connaissance, la liberté et l'amour. Mais dans ses œuvres théologiques, Boèce précise ce qu'est la personne. La définition qu'il en donne est bien connue. Alors, elle est restée dans tout le Moyen-Âge. Il faut donc la savoir par cœur. Je vous l'ai dit. Dans le traité sur les deux natures et une personne, traité du Christ, De duabus naturis et una persona, il dit ceci. Si la personne se trouve seulement dans les substances et en celles-là seules qui sont raisonnables. Si toute substance est une nature et ne réside pas dans les êtres universels mais dans les individus, la définition de la personne est donc trouvée. Voilà comment il a vu. La personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. Ça, c'est la définition classique de Boèce. Persona substantia individua. Donc, la personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. Cette définition, ajoute Boèce, correspond à ce que les Grecs appellent hypostasis. Hypostasis. Vous savez que le terme hypostasis est un terme très intéressant. Hypostasis, ce qui se tient en dessous. Hypostasis, hein? C'est ce qui se tient en dessous. Donc, ça correspond à ce que les Grecs appellent hypostasis, qui désigne chez eux la subsistance individuelle d'une nature raisonnable. La subsistance individuelle d'une nature raisonnable. Alors, n'oubliez pas, chez Aristote, le mot hypostasis est employé pas du tout pour la personne. Mais comme Aristote est fils de médecin, il l'emploie de cette manière en disant que c'est le dépôt de l'urine. Hypostasis. C'est intéressant pour l'évolution des mots, vous voyez. Parce que ça, je crois que c'est très frappant. C'est le mot qui a évolué le plus. C'est pour Aristote, c'est ça que ça veut dire. Le dépôt de l'urine. On voit très bien l'analyse qu'on fait. Alors, hypostasis. Et puis alors, donc pour Aristote, et vous trouvez ensuite hypostasis, subsistance. la subsistance, substantia. Subs, le hypostasis, ce qui est en dessous. Stasis, ce qui se tient en dessous. Donc c'est le dépôt, ce qui se tient en dessous. Et c'est devenu, c'est très très curieux, c'est très intéressant. J'ai jamais vu d'article là-dessus. Pour les philologues, ça devrait être intéressant. J'ai un petit article là-dessus sur, de l'évolution du mot hypostasis. Parce qu'à partir de là, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est très intéressant à voir. De voir de l'évolution du mot hypostasis. Parce que le mot hypostasis a joué un rôle très très important en théologie. Hein. Alors c'est intéressant de voir les petits-fils, vous voyez. Les plus exactement les grands-pères, c'est plutôt les grands-pères. C'est de l'évolution. C'est pas du singe à l'homme, mais c'est quelque chose d'encore beaucoup mieux. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors, donc, Boès dit « Cette définition correspond à ce que les Grecs appellent hypostasis, qui désigne chez eux la subsistance individuelle de nature raisonnable. En traduisant hypostasie par subsistance individuelle, Boès veut distinguer cette subsistance de la subsistance qui serait celle des genres et des espèces. Ceux-ci, selon Boès, subsistent en ce sens seulement qu'ils n'ont pas besoin d'accident pour être, alors que les individus non seulement subsistent, mais encore supportent des accidents. Substantent, supportent, hypostasis, ils supportent des accidents. C'est assez joli. Ça, c'est très beau, hein, ça. Ça ne t'aura plus d'où, ça t'aura après. Hypostasis, donc ce qui supporte, ce qui est capable de supporter les accidents. Donc c'est vraiment la substance individuelle, c'est la subsistance individuelle. La subsistance individuelle dans la nature rationnelle. Dans la nature rationnelle, donc la subsistance individuelle, c'est ça l'hypostasis. C'est ça la personne. Persona. Par latin. Une fois établie l'équivalence des termes grecs et latins, ousia égale essentia, chez Boès, hein? Ousia égale essentia, ousiosis, subsistentia, hypostasis, substantia, prosopon, persona. Vous avez là des choses intéressantes. Ousia, essence, essentia. Ousiosis, c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup. Hein. Ousiosis, je ne l'ai jamais vu chez Aristote. Ousiosis, subsistentia, hypostasis, substantia, prosopon, personne. Boès conclut que l'homme a une ousia, donc une essence, puisqu'il est. Une ousioso, une ousiosis, puisqu'il y a une subsistance. Il n'est pas dans un sujet. Donc il subsiste en soi, il n'est pas dans un sujet. Une hypostasis, une substance. Parce que sous les autres, qui ne sont pas subsistance, oui, parce qu'il est sous les autres qui ne sont pas subsistance. Prosopon, une personne, puisqu'il est un individu raisonnable. Oui, voilà comment il définit le point de vue de l'homme. Donc l'homme est une personne, parce qu'il est dans une nature un individu raisonnable. Et il est substance et il subsiste. Bon, je n'insiste pas plus. Ce qu'il faut, c'est retenir hein, que Boès joue un rôle très important dans la tradition latine, dans la tradition des pères latins, à propos de la personne. Saint Thomas, dans une perspective théologique, dans sa somme théologique trinitaire et christologique, Saint Thomas étudie la notion de personne toujours dans une perspective théologique. À la suite de Pierre Lombard, il s'appuie sur la définition de Boès, mais lui donne une nouvelle signification, plus métaphysique. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est même très curieux de voir ça. Dans le commentaire des sentences, donc le premier saint Thomas, quand il a 25 ans, dans le commentaire des sentences, où il commence pour la première fois cette définition, où il commente pour la première fois cette définition, la personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. Saint Thomas explique que dans la définition de la personne est impliqué trois éléments. Premièrement, le genre de la réalité, qui est signifié par le nom de personne, lorsqu'on dit substance. La différence par laquelle le genre est contracté à une nature déterminée, en laquelle se trouve la réalité qui est personne, ce qui est exprimé d'une nature raisonnable, d'une nature rationnelle. Et le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité individuelle. Oui. Genre et différence possible. C'est très artificiel. C'est amusant de voir ça. Le genre, donc vous voyez, le genre, c'est tout simplement substance, la différence spécifique de nature rationnelle, et le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité individuelle. Dans la somme, donc ça c'est le point de départ, hein. Ce qui est intéressant, c'est que saint Thomas se raccroche à la division de Boès. Ça qui est intéressant. Alors, vous pourrez voir, il y a des quantités de lieux où saint Thomas parle de ça, mais au fond, je ne vais pas m'arrêter ici. Et saint Thomas, pratiquement, s'est revenu à travers tout son, je dirais, tout le développement de la somme, ça, le développement de son œuvre théologique. Dans la somme, saint Thomas justifie ainsi la définition de Boès. Si la distinction particulière, universelle, se retrouve dans tous les genres, l'individu cependant se trouve dans le genre de la substance d'une manière très particulière. Car la substance est individuée par elle-même, tandis que les accidents le sont par le sujet, qui est substance. C'est pourquoi les individus de la substance ont un nom spécial. Ils sont dits hypostases ou substances premières. Saint Thomas précise encore, l'individu est ce qui en soi est indistinct et distinct des autres, donc incommunicable. De plus, le particulier et l'individu dans les substances rationnelles qui ont un dominium sur leur acte. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut souligner. C'est là que dans la somme, on voit apparaître quelque chose de tout à fait nouveau. Saint Thomas va toujours définir la personne par le dominium. Le dominium sur leur acte. Elles ne sont pas seulement mues, mais elles agissent par elles-mêmes. Donc, le particulier, l'individu dans les substances rationnelles, se réalise selon un mode plus spécial et plus parfait, puisque les actions se réalisent toujours d'une manière singulière. C'est pourquoi, parmi les substances, seules les substances singulières de nature rationnelle portent un nom spécial, on les appelle personnes. Donc, vous voyez les deux aspects que saint Thomas souligne. La substance seule est individuée par elle-même. Donc il va insister sur le mot substance. La substance seule subsiste. Et seule, elle subsiste comme un individu. Deuxièmement, la substance dans une nature rationnelle, c'est une personne. Parce qu'elle a un dominium sur ses actes. Il faut, dans la définition de la personne prise in communi, poser, nous dit saint Thomas, la substance individuelle, qui signifie le singulier dans le genre de la substance, y ajouter de nature rationnelle pour signifier le singulier dans les substances rationnelles. La personne dans la nature rationnelle signifie ce qui est distinct dans sa nature. Certes, le singulier ne peut être défini, il est ineffable, mais on peut préciser la raison commune de, sa singularité. Donc, on voit bien comment saint Thomas reprend la définition de Boèce en essayant de regarder un aspect beaucoup plus métaphysique. Je crois que c'est ça l'intérêt. Vous voyez, c'est qu'au fond, il regarde avant tout ce que c'est que la substance, le point de vue de la substance qui subsiste en elle-même d'une manière individuelle, et que cette substance qui subsiste d'une manière individuelle, quand il s'agit d'une substance qui existe dans la nature rationnelle, a ce dominium sur ses propres actes. Alors, l'aspect éthique. C'est pas qu'il y a l'aspect éthique. Au fond, seule la personne est responsable de ses actes. Voilà ce que vous diriez. Une vache n'est pas une personne parce qu'elle n'est pas responsable. Elle n'a pas de dominium sur ses actes. Donc si elle n'a pas de dominium sur ses actes, elle n'est pas responsable. Et n'ayant pas de responsabilité, elle n'est pas une personne. Seul celui qui a un dominium sur ses actes est responsable. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que saint Thomas, dans son traité de la très sainte Trinité, va purifier de la manière la plus forte qui soit la notion de personne, la ratio personae. Vous voyez ? Je crois qu'il y a deux efforts de saint Thomas. Donc, d'assumer Boèce, puis essayer, dans le traité de la très sainte Trinité, voir comment on peut concevoir une personne qui va être attribuée à une réalité qui est distincte uniquement d'une autre, d'une façon relative. La personne exprime la substance, hein, substance individuelle. Eh bien, dans la somme, quand saint Thomas essaie de comprendre comment nous pouvons saisir la ratio personnelle et l'appliquer au Père, l'appliquer au Fils. Saint Thomas précise que le Père et le Fils, qui sont un, une seule res, il n'y a pas trois res dans la très sainte Trinité, il n'y a qu'une seule res, comment le Père et le Fils, qui se distinguent uniquement selon la procession, la distinction est uniquement selon la procession, si la distinction est seulement uniquement selon la procession, c'est donc une distinction qui fait que le Père est tout entier relatif au Fils et le Fils est tout entier relatif au Père. Comment arriver à découvrir que le Père est une personne distincte de la personne du Fils? Puisque, philosophiquement parlant, la personne c'est la substance. Vous voyez la grosse difficulté, il faut bien saisir, et saint Augustin est tourné autour et n'a pas su. Il n'a pas su, il est tourné autour comme vous pouvez, mais il faut bien voir la difficulté. Selon toute la grande tradition, la personne c'est la substance. Donc il n'y a rien de plus absolu qu'une personne. Selon la foi, on dit qu'il y a un seul absolu en Dieu, une res. On va dire trois res. Donc il n'y a qu'un seul absolu. Donc vous êtes tenté de dire une seule substance. Et c'est vrai. Le reste, c'est la substance. Une seule réalité. Et vous dites dans la foi qu'il y a trois personnes. Alors comment concevoir la personne totalement relative à l'autre? Ça semble contradictoire. Complètement contradictoire. Alors on comprend très bien le théologien qui s'acharne à ça, hein. Et au fond, je crois que c'était le grand effort de saint Thomas d'essayer de comprendre comment nous pouvions encore penser. Parce qu'on pourrait dire, ah ben oui, très bien, c'est le mystère, je ne comprends rien, vous savez. Soit je crois parce que c'est absurde. C'est une solution, très élégante. En disant, c'est complètement absurde. L'absolu, oui, c'est sûr, la personne. Je dis trois personnes en Dieu. il n'y a qu'un absolument Dieu, comment peut-il y avoir trois personnes ? Bien, saint Thomas n'est jamais celui qui dit ça. Hein. Il essaie en se disant, il doit y avoir en Dieu et dans le mystère quelque chose d'une intelligibilité beaucoup plus grande que celle que je peux saisir. Alors comment saisir cela ? Et c'est là où on voit comment saint Thomas va essayer, par le point de vue de la relation. Le Fils est totalement relatif au Père, et le Père est totalement relatif au Fils, dans la procession, qui est immanente, hein, puisque c'est à l'intérieur de la procession qu'il ne divise pas Dieu, il n'y a pas de division en Dieu, il y a une distinction des personnes sans division. Comment, par la relation, on va pouvoir distinguer le « ad » et le « il » ? Je n'entre pas dans tous les détails, hein, mais pour ceux qui connaissent un tout petit peu la théologie de saint Thomas, se rappelleront immédiatement le « ad » et le « in ». Le « in » représente dans la relation l'élément fondamental et le « ad » l'élément le plus formel. L'ami est relatif à son ami. Ce sont les termes corrélatifs qui expriment le point de vue de la relation. Tandis que l'enracinement dans le sujet, quelque chose de matériel. En Dieu, il n'y a pas d'accident, selon la simplicité absolue de Dieu. Donc je ne peux attribuer à Dieu que le « ad », pas le « in ». Parce que ça, c'est l'accident matériel. Et donc, il faut arriver à comprendre que lorsque je parle du Fils et du Père, je suis en face d'une personne que je peux définir par le point de vue du ad subsistant. Alors nous aurons donc, qu'est-ce qui va préciser ce qu'est la personne divine ? C'est d'être totalement relatif dans l'absolu. Ça c'est merveilleux comme précision théologique, hein. C'est pas commun, mais c'est merveilleux comme précision théologique, d'arriver à concevoir que par le « ad » attribué à Dieu, c'est pas un accident, donc il est substantiel. Et le « ad » peut être ce qui va spécifier la personne divine. La personne divine est totalement relative tout en étant un absolu. Alors on dira que c'est le ad subsistant. Alors nous avons à partir de là, si vous voulez, une conception de la personne divine. Nous ne la comprenons pas, hein, c'est le mystère. Mais nous essayons d'éviter la contradiction. Tandis qu'au point de départ, on disait que c'était contradictoire. La personne représente quelque chose d'absolu. Je vous dis trois personnes en Dieu. Il y a un seul absolu. Il doit y avoir trois absolus. Et c'est ce que nous faisons spontanément. Nous projetons en Dieu en disant qu'il y a une famille en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il y a une famille, il y a trois personnes. Puis on ne sait pas. Ah, elles sont une ? Oui, en dessus, elles sont tellement unies que ça ne fait qu'un. Vous voyez, c'est comme dans une famille, elles sont tellement unies que ça ne fait qu'un. Alors ça fait au-dessus, comme ça. Vous voyez, on met une clôture pour être sûr que ça ne va pas partir à droite et à gauche. Alors on les met comme ça. Ah, c'est pas ça du tout. Le mystère de Dieu, je le pense à partir de la simplicité absolue de Dieu. La première chose que je dois regarder, c'est la simplicité absolue de Dieu. Dieu est absolument simple. Il est un. Et ça, mon intelligence humaine peut le dire. Je dois donc affirmer en premier lieu qu'il est absolument simple. Et dans cette simplicité, je dis qu'il y a une distinction des personnes. Et que les personnes ne peuvent se distinguer que par la procession, que par le point de vue de la pure relation. Et donc, les personnes divines ne peuvent être qu'un ad subsistant. Oui, comment ? Par la simplicité et le mystère de la procession, je peux préciser cela. Alors évidemment, ça ne me donne pas du tout, hein. Je ne pourrais pas dire comme certains l'ont dit, parce que le bon père Gérard des Lauriers disait que grâce à la très sainte Trinité, il avait une nouvelle conception de la relation. Non, La très sainte Trinité n'est pas faite pour me donner une nouvelle relation de la très sainte, pour me donner une nouvelle conception de la relation. La très sainte Trinité ne me donne absolument aucun nouveau concept. J'essaie de montrer que ce n'est pas contradictoire. Mais elle ne me donne aucun nouveau concept. Donc je n'ai pas un nouveau concept d'une relation subsistante. Donc d'une relation qui ferait l'unité au point de vue de l'être entre relation et substance. Oui, alors j'aurai dans la très sainte Trinité l'union merveilleuse de la substance et de la relation. Alors à partir de là, j'ai une nouvelle conception de la relation, une relation qui est subsistante. Attention, la très sainte Trinité reste un mystère que je ne conçois pas, qui me dépasse complètement. Mais je peux montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Oui, eh bien c'est un peu la même chose ici. La très sainte Trinité ne me donne pas une nouvelle conception de la personne. Mais je peux comprendre dans la foi, c'est-à-dire à l'intérieur d'un mystère, qu'il peut y avoir un absolu, et dans cet absolu, il peut y avoir cette distinction des personnes, qui fait que cette distinction est une distinction qui est subsistante. Une distinction plus forte que toute autre distinction. Autrement dit, aucune personne n'est autant distincte d'une autre que le Père du Fils. Et aucune autre personne n'est autant unie que le Père et le Fils. La suprême distinction est la suprême unité. Tout éclate, autrement dit. C'est ça, justement, le propre d'arriver à s'approcher du mystère. Saint Thomas va encore étudier longuement ce que c'est que la personne à cause du mystère de la très sainte Trinité, à cause du mystère du Christ. Deux natures dans une personne. On comprend très bien que le théologien, il est toujours, vous voyez, à essayer de comprendre le mystère de la personne dans la très sainte Trinité, le mystère de la personne dans le Christ. Et puis après saint Thomas, on parlera d'une subsistance mystique qu'est l'Église. Et saint Thomas du reste lui-même dira que l'Église, c'est quasi una persona. Nous sommes liés au Christ d'une manière telle que quasi una persona. Nous sommes avec le Christ comme une seule personne. Quasi una persona. Donc c'est encore le mot de personne qui est employé pour essayer de saisir, de préciser l'unité de l'Église. Personne mystique, le corps mystique du Christ. La personne mystique, una persona, quasi una persona. Bon, je ne regarde pas avec vous les autres philosophes, les autres théologiens. Je voudrais simplement montrer avec vous comment avec Descartes, la personne se définit par la conscience. La personne se définit par la personne, par la conscience, la substance pensante. Et chez Locke, ce sera la conscience. La personne, affirme Locke, est un être pensant, intelligent, qui est doué de raison et de réflexion, et qui peut se considérer comme lui-même la même chose pensante en différents temps et lieux, ce qu'il ne fait que par la conscience, qui est inséparable de la pensée et qui, me semble-t-il, lui est essentielle. C'est intéressant, vous voyez, de voir que ce que certains théologiens aujourd'hui, vous savez bien, définissent la personne comme la conscience. Ce problème est revenu très fort avec le problème du point de vue, savoir à quel moment, du point de vue génétique, à quel moment l'homme était une personne. À quel moment est-ce que le tout petit être qui vient au moment de sa conception est-il une personne ou pas une personne? Et c'est vrai que c'est important pour savoir cela, pour savoir si de fait il y a crime, on tue une personne ou on ne tue pas une personne quand de fait l'enfant n'est pas encore né. Alors est-ce qu'il y a une personne ou pas? Alors, certains théologiens ont repris la définition de Locke. C'est pas nouveau. La personne, c'est la conscience. Mais je crois qu'il faut toujours bien distinguer la personnalité psychologique et la personne métaphysique. Au début de son anthropologie, Kant définit la personne par la procession du je, dans la représentation et par l'unité de la conscience. Je vous lis ce passage parce qu'il est intéressant. Posséder le je dans sa représentation. Ce pouvoir élève l'homme indéfiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par là, il est une personne. Et grâce à l'unité de la conscience, dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne, c'est-à-dire un être entièrement différent par le rang et la dignité de choses comme le sont les animaux, sans raison, dont on peut disposer à sa guise. Et ceci même lorsqu'on ne peut pas dire « je », car il l'a dans la pensée. Vous voyez, c'est le processus du « je ». Posséder le je dans sa représentation. Ce pouvoir élève l'homme indéfiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Qu'est-ce que c'est que la personne? C'est encore le problème de pouvoir posséder le je dans sa représentation. Je peux me représenter moi-même. Et je peux me représenter comme ayant une unité. Donc c'est bien la superconscience, vous voyez, j'allais dire. La réflexion sur ma conscience. Et la réflexion sur ma conscience fait qu'il y a une certaine unité en moi. La conscience dont parle Kant, en laquelle se révèle l'identité personnelle, n'est pas la conscience empirique, mais la conscience transcendantale, qui précède toute expérience particulière, et qui est la conscience de moi-même en tant qu'apperception originaire. Cette conscience de soi, qui en produisant la représentation « je pense », doit pouvoir accompagner toutes les autres, et qui, une et identique en toute conscience, ne peut être accompagnée d'aucune autre. Cette conscience de soi-même, dans la synthèse transcendantale du divers des représentations en général, est simplement la conscience d'un pouvoir de synthèse de ces représentations a priori. C'est très curieux comme manière de concevoir, vous voyez ? Autrement dit, la personne est quand même beaucoup plus qu'un aspect uniquement extérieur, c'est ce qui permet, c'est cette conscience de soi-même dans la synthèse transcendantale du divers des représentations en général, et simplement la conscience d'un pouvoir de synthèse de ces représentations a priori, dans le sens de Kant. Nous sommes ici à un niveau purement logique, car les modes de la conscience de soi dans la pensée ne sont pas encore en soi des concepts intellectuels d'objets, mais de simples fonctions logiques qui ne font connaître à la pensée absolument aucun objet et par suite ne me font pas connaître non plus comme objet. En dehors de cette signification logique du moi, nous n'avons aucune connaissance du sujet en soi et qui est à la base du moi comme de toutes les pensées en qualité de substrat. Si donc le concept de la personnalité demeure chez Kant, c'est en tant que simplement transcendantal, c'est-à-dire en tant qu'il est l'unité du sujet. Il est à ce titre nécessaire et suffisant pour l'usage pratique. Mais il ne peut en aucune manière permettre à la raison pratique de nous connaître davantage. Ce que la raison pure nous offre, c'est seulement l'illusion d'une continuité ininterrompue du sujet déduit de simples concepts de moi identique. Vous voyez, c'est au fond une conception logique de la personne. pas de véritable... C'est pour montrer la continuité, c'est le souci de la continuité. Je crois que ce qui est plus important de voir, c'est de comprendre comment les modernes... Alors là, c'est un problème très important. Comment les modernes sont revenus très fort à la notion de personne. Liberté et personne sont peut-être les deux sujets principaux de toute la philosophie contemporaine. Je crois. C'est pour ça que c'est important de signaler, on est. Et c'est pour ça que c'est important, au point de vue métaphysique, de revenir sur la personne, comme il faut revenir sur la liberté au niveau de la philosophie éthique. Le problème personne et le problème liberté, je crois que c'est les deux grands axes de la pensée moderne. Alors, c'est important de le saisir. Dans la perspective de la phénoménologie moderne, on peut dire qu'avec Max Scheler, le problème de la personne est devenu quelque chose de tout à fait central. Dans le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs, qui se présente explicitement comme un nouvel essai de personnalisme, Max Scheler affirme : on n'a jamais